Je reçois des bips. Ce sont la fréquence d'urgence. 6 chiffres à deux reprises.
88.3.
Qui êtes-vous?
Radio Campus.
Et comment êtes-vous entré?
Nos propres méthodes de communication sont plus mentales que verbales.
Je vais appeler la sécurité.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les Allemands sont arrivés, donc dans la cour, ils arrivaient et assez rapidement. Ils sont arrivés dans la cour, alors baïonnette au fusil.
Hélène Beck, 10 ans, en 1944.
Baïonnette au fusil et puis là, c'est là qu'il y avait une dame qui arrivait des bombardements de Tours, qui était dans cette petite maison d'ailleurs, à côté. Elle avait une jambe dans le plâtre avec 3 enfants, son mari avait été tué. Et c'est là qu'ils se sont mis à... Ils ont tiré sur elle, donc moi, c'est là que je les ai vus. Elle s'est effondrée, elle en avait un dans les bras, et puis ses 2 autres enfants. Puis là, on est rentré donc dans la maison. C'est moi qui suis rentrée la dernière. Ils ont tiré, là mon petit frère, on s'en est pas rendu compte tout de suite, il a pris une balle dans la tête. Et moi j'ai pris donc des balles dans les jambes. Et ma petite... Alors ils ont jeté une plaquette incendiaire, donc ça a mis le feu. Maman a dit, allez, papa, faut sauver. Alors donc on a tous passé par cette fenêtre, on a couru dans le parc, là.
Salut tout le monde, c'est avec la voix d'Hélène Beck, 9 ans, ce 25 août 1944, un extrait du documentaire Le Massacre oublié, que s'ouvre ce 3e épisode de cette série sur le massacre de Maillé. 25 août 44, Maillé, très banal patelin de la région centre, comme il en existe des milliers, 124 civils, hommes, femmes et enfants, sont assassinés par des SS. Cet événement tombe dans 50 années de silence et d'oubli, pour ressurgir en 1994. Vous allez aujourd'hui survoler le début d'une passionnante enquête historique et policière, puisque c'est l'un de ceux qui l'ont menée, l'historien Sébastien Chevreau, qui vous expliquera comment il a procédé pour retrouver les coupables. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Pourquoi Oradour-sur-Glane entre-t-il dans les livres d'histoire et pas Maillé? Qui a commis et ordonné ces meurtres? Peut-on encore arrêter les coupables? Vous allez avoir des réponses à ces questions, le temps de vous détendre avec ce Machine à écrire Swing par l'orchestre Jacques Météenne, millésimé mars 1943. Machine à écrire Swing, 1943, toujours stupéfiant de se dire que les civilisations sont capables de produire ce genre d'œuvre, même plongées au cœur d'événements comme la Seconde Guerre mondiale, pendant que des gens dansent, d'autres meurent. C'est le cas ce 25 août 1944 à Maillé, région centre, sud de l'Indre-et-Loire. En fait, vous êtes à nouveau dans ce patelin aujourd'hui, mais franchement, vous pourriez être tout aussi bien dans un autre bled de France, ou d'ailleurs dans le monde. Maillé est un bourg d'une banalité universelle, ça pourrait être le patelin à 20 minutes de voiture de chez vous. Sébastien Chevreau est historien de formation, il a été l'un des artisans de la Maison du Souvenir de Maillé. Il va vous entraîner dans une extraordinaire enquête dans le temps, et vous expliquer comment travaille un historien, à certains égards, presque comme un policier. Comment est-ce que tu es tombé sur l'histoire de Maillé ?
Je l'ai découvert, je pense, en 1994, quand je faisais des recherches, ma maîtrise d'histoire, qui était sur la destruction et reconstruction de Tours, et je suis tombé par hasard sur un dossier aux archives qui mentionnait Maillet. C'est comme ça que j'ai découvert Maillet. Mais même à cette époque-là, en découvrant, en lisant le premier procès-verbal réalisé par les gendarmes,
les gendarmes de Sainte-Maure qui viennent découvrir...
Le jour même, ils découvrent et ils tapent avec leur petite machine à écrire ce qu'ils voient, ils marquent ce qu'ils voient. Moi, en lisant ce document-là, je n'ai pas compris, comme la majorité des gens, ce qui s'était vraiment passé. C'est plus tard, quand on m'a demandé de créer la Maison du Souvenir, que j'ai commencé à comprendre l'importance de ce qui s'était passé. Et je pense que jusqu'à cette époque-là, on avait l'impression que des Maillets, il y en avait partout sur le territoire. Alors on avait l'impression que des massacres, bah oui, tout le monde, partout on a tué des Français, partout on en a tué sur le territoire. Mais les Allemands ont surtout tué des hommes, ont fusillé des hommes, ont massacré des hommes sur le territoire. Plus rarement des femmes et encore plus rarement des enfants. C'était pas dans leur logique. Ils avaient le droit de le faire dans les pays de l'Est, en Pologne, en Ukraine, dans l'ancienne Union soviétique, ça ils avaient le droit de le faire. C'est plus de 2 millions de morts en Biélorussie par exemple. En France, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils avaient le droit de fusiller des hommes, mais ils n'avaient pas le droit de fusiller des femmes, et encore moins des enfants. S'ils devaient tuer des femmes, on les mettait dans des wagons pour les envoyer dans les camps de travail. Mais on ne touchait pas aux enfants. Et dans ces massacres en France, ça a été 44, mais on se retrouve avec deux grands massacres. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, 642 morts, dont un tiers d'enfants et un tiers de femmes, et Maillet, où on va avoir la même proportion, un tiers d'enfants, un tiers de femmes et un tiers d'hommes.
Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges, les SS sont venus. Plus de 1000 morts. Toute la population d'un village de France a été tuée soigneusement, méticuleusement.
Le grand massacre français sanctifié par les livres d'histoire, c'est Oradour.
Le 10 juin 44, donc 4 jours après le premier débarquement de Normandie.
Depuis 1943, il y a Stalingrad. Tout le monde a compris que la guerre était perdue pour les Allemands, à part quelques irréductibles. Après Oradour, Hitler donne des instructions très claires. Plus d'Oradour.
Oui, mais nous sommes en France. La France, ce n'est pas les pays de l'Est. Ils ont des logiques différentes. Ils ne gèrent pas les populations de la même façon. Dans les pays de l'Est, on a le droit de tuer. Alors, il n'y a pas que les Juifs, on tue tout le monde. On tue tous ceux qui peuvent s'opposer. Il y a un Allemand qui est tué dans une bourgade, on détruit la bourgade. On la supprime directement. Pour les Allemands, c'est pas grave. Ce sont pas des hommes, donc on a le droit de les tuer.
Il faut rappeler qu'il y a une idéologie derrière ça. Hein. Les Slaves, comme les Juifs, sont des peuples inférieurs. Donc...
On peut les tuer. Donc, toutes les populations juives, donc là, il fallait les exterminer. Les Slaves, ce sont des esclaves. Donc, qui ne meurt pas, c'est pas trop le problème. Mais on ne va pas leur créer, pour eux, des camps d'extermination. Voilà, c'est peut-être la petite différence. Mais on n'hésite pas à les tuer si on a peur de la sécurité. En France, c'est différent.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Philippe Pétain, suivi de Pierre Laval.
On aime son pays parce qu'on aime son village. Pour moi, Français, je voudrais que demain, nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. Elle doit, avec d'autres, consentir d'immenses sacrifices. Elle ne ménage pas le sang de sa jeunesse. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Hitler a besoin de la France, il a besoin d'une politique de collaboration, il a besoin que le maréchal Pétain, que Pierre Laval, le président du Conseil, aident les Allemands. Il a besoin que les Français travaillent dans les usines allemandes. Et il a besoin qu'il n'y ait pas trop de résistants en France. Il espère qu'une majorité de Français ne vont rien faire. Donc il ne faut pas non plus faire une politique de répression aussi brutale que dans les pays de l'Est. Parce qu'on a besoin de cette politique de collaboration.
Notre pays traverse des jours qui compteront parmi les plus douloureux qu'il ait connus. Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Néanmoins, on n'hésite pas à tuer des Français qui sont pris les armes à la main, à déporter des résistants quand on a un soupçon, mais on ne tue pas les femmes en France. Les femmes, on les déporte dans des camps de travail où elles peuvent mourir après. Et les enfants, ben on ne touche pas aux enfants. Les enfants, c'est à partir de l'âge de 15 ans. Si on a un garçon qui a plus de 15 ans et on découvre sur lui des tracts ou des munitions, il peut être fusillé. Mais avant, non. Donc il y a quand même des logiques différentes.
It's now becoming quite clear in daylight as 6 a.m. approaches on June 6, 1944.
Alors, les Robert Slayton, c'est le débarquement. Il y a au moins 5000 navires là devant moi.
Ces logiques vont se transformer petit à petit durant l'été 1944. Où là, la pression militaire devient de plus en plus forte, il y a de plus en plus d'actions de résistance. Il y a le débarquement en Normandie, donc au mois de juin 1944, et le second débarquement qui aura lieu au mois d'août 1944, le 15 août 1944, entre Nice et Toulon. Et ce deuxième débarquement va provoquer beaucoup plus de réactions de militaires, puisque d'un côté, on a les Américains qui arrivent de Normandie, qui se dirige vers Paris, et l'autre, ce débarquement surtout par des troupes françaises qui débarquent à Nice et Toulon et qui vont remonter le long du Rhône en direction de Lyon. Donc vers le 15 août 1944, enfin les Allemands savent que la guerre est perdue pour eux, pour la bataille de France. Le 17 août, Hitler mettra quand même 2 jours à ordonner ses troupes de se replier de France pour retourner en Allemagne. Il mettra 2 jours, donc c'est quand même pas non plus un très bon stratège militaire, Hitler.
Tandis qu'au large, des millions de mines flottantes ont été mouillées, sur les plages, on voit à perte de vue les lignes de barbelés, les pièges, les défenses qui s'opposeront à l'avance des formations motorisées. Aucune surprise n'est à craindre.
He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
Et sa banlieue sous les bombes anglo-américaines. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduiraient votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile.
Cette pression, c'est une pression constante que les Allemands vont avoir sur le dos. De la part des résistants, les sabotages de trains, de voies ferrées, d'embuscades. De la part aussi des alliés, avec des bombardements systématiques de toutes les troupes allemandes. Donc, dès qu'ils se déplacent en véhicule ou en train, ils ont un risque de se faire bombarder par des chasseurs. Et la peur va changer de côté, les Allemands vont avoir de plus en plus peur. Cette peur va être accentuée par des actions d'embuscade de plus en plus répétés de la part de résistants. Ce sont des résistants qui se cachent, qui n'ont pas d'uniforme, qui ont quelques pétoirs, des vieilles mitraillettes, des vieux fusils de chasse, et quand ils voient passer un Allemand, ils lui tirent dessus. C'est pas des vraies batailles, c'est presque on tire dans le dos. Tout au moins, c'est le sentiment de ces soldats allemands qu'on leur tire dans le dos. Et ça, les Allemands, ben, ils n'aiment pas ça. Ils ont l'impression de se retrouver comme dans les pays de l'Est, comme en Russie, comme en Union soviétique, où la guerre des partisans, c'était la même chose. C'était pas une guerre frontale, c'était une guerre larvée. C'est une guerre un peu de...
La guérilla.
La guérilla. Et ça, les Allemands n'aiment pas ça, parce qu'ils ne savent pas gérer ce genre de problème de guerre. Ce qui fait qu'ils arrivent progressivement à une méthode de répression de plus en plus active contre un ensemble de populations. Ce qui va un petit peu se passer à Oradour, donc ils ont voulu marquer un grand éclat à Oradour. Il va y avoir quelques petits villages aussi tout le long. Ça sera le cas également après à Maillé. Souvent, dans ces répressions faites par les Allemands pendant l'été 1944, les Allemands s'en prenaient qu'aux hommes. Alors, on prenait les notables du village, les instituteurs, le maire, on les prenait en otage, et si ça se passait mal, on les fusillait, mais en laissant toujours les femmes et les enfants de côté. Il y aura ces deux exceptions, Oradour et Maillet.
Nous avions demandé, vous en souvient-il, que puissent classer monuments historiques les ruines accusatrices dans lesquelles subsistent les berceaux calcinés d'Oradour-sur-Glane. C'est fait, ce signe irrécusable demeurera dans le temps futur. Mais ne croyons pas surtout que le signe d'Oradour soit un signe isolé. Savez-vous que dans ce petit coin de terre de France s'est finalement perpétré le 25 août 44 un crime d'exactement même sorte que celui d'Oradour, le massacre de toute la population de Maillet.
Toujours en la compagnie de l'historien Sébastien Chauvreau, qui a amplement contribué à la création de la Maison du Souvenir à Maillet, on en revient à 1994, tu fais tes études d'histoire, tu tombes sur ce procès-verbal des gendarmes de Sainte-Maure, et tu disais à l'instant, en lisant ce document, j'ai pas compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il dit ce procès-verbal ?
Mentionne ce que voient les gendarmes. Les gendarmes mentionnent qu'ils voient que des Allemands tuent les gens partout dans le village et qu'il n'y a pas de sommation. Ils tirent à vue. Ils tuent toutes les personnes et mettent le feu au village. Et l'histoire, comme quoi l'histoire change, ou tout au moins sa perception, il faudra attendre encore les années 2008 pour qu'en France, on ait cette notion de se dire « Mais non, des Maillets, il n'y en a pas partout. Des Oradour, il n'y en a pas partout. » Partout, on a tué des gens, mais pas tués comme un Maillet ou comme un Oradour. C'est pas un massacre qui est dû qu'à une seule personne ou à 10 personnes. Non, c'est un massacre dû à des dizaines de personnes. C'est pas qu'un simple coup de folie. C'est sûr qu'avec une mitraillette, on peut tuer 10 personnes d'un seul coup. Non, non. À Maillet ou à Oradour, c'est plusieurs dizaines de personnes qui tuent à l'arme blanche, c'est-à-dire les yeux dans les yeux. Ils sont pas drogués, ils sont pas alcoolisés. Ils savent très bien ce qu'ils font.
Il y a eu une préméditation, une organisation de ce massacre, puisqu'on voit qu'il y a des munitions particulières de type incendiaire. Donc il y a une logistique, donc une préparation.
C'est pas un coup de sens, c'est une préparation. Ils ont préparé les hommes qui vont venir sur place. Il y a des ordres, il y a une répartition. C'est pas que simplement un groupe qui rentre dans un village et qui s'en va. Non, non, il y a des sentinelles. On fait venir de l'artillerie, alors que cette même artillerie, ces deux canons d'artillerie, sont très importants, normalement, pour lutter contre les Américains, qui sont seulement qu'à 50 km de Tours. Non, les Allemands préfèrent déplacer ces canons, plutôt que défendre Tours contre les Américains, les déplacer vers Maillet pour bombarder un village. Et il y aura une suite. Ils font le massacre et bombardent le village. Et ensuite, de la voie ferrée qui traverse Maillet, cette voie ferrée Paris-Bordeaux, il y a 4 convois ferrés qui passent dans la nuit, du 25 au 26, et des 4 convois, on tire sur le village. Donc il y a une continuité d'ordre dans le temps. Voilà, c'est sûrement pas un coup de folie. C'est là où c'est vraiment presque le plus dramatique, c'est que c'est quelque chose de planifié, d'organisé.
À partir de quand comprends-tu ou à partir de quand comprend-on la spécificité de Maillet ?
Alors moi, je le comprends à partir du moment où je commence à faire des recherches sur Maillet. Donc, dès les premières semaines où j'étais nommé à Maillet en 2004. Et à l'époque, en 2004, il n'y avait qu'un seul site internet qui mentionnait Maillet. Le nombre d'ouvrages historiques mentionnant Maillet se comptait sur les doigts d'une main. Maillet avait disparu. Donc, d'un côté, j'ai un massacre où j'ai 124 morts. Et de l'autre côté, je n'ai pas d'articles de presse, je n'ai pas de journaux qui mentionnent ce massacre. Déjà, là, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème dans notre mémoire collective. Et quand on essaye de faire l'importance des massacres, on s'aperçoit que Maillet arrive en deuxième place. Et là, on se dit, mais comment ça se fait que Maillet n'est pas rentré dans notre mémoire collective ? C'est l'absence totale de représentants de l'État, enfin du gouvernement, à Maillet, entre 1945... et 2006, il n'y a pas de ministre entre ces deux périodes qui vont venir à Maillet un jour de 25 août, un jour de cérémonie.
Alors, comment est-ce que tu fais pour comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ?
Disons que je m'en rends compte peut-être assez rapidement justement par l'absence de documents. On a 124 morts et on n'a rien. On sait simplement à l'époque, en 2004, que ce sont des troupes allemandes qui ont fait ce massacre. Point. Pas de nom d'unité, pas de nom de personne. La seule personne, ce fameux sous-lieutenant Schlüter, on sait qu'il était à Maillet et c'est tout. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait même pas s'il était mort. On n'avait rien. A priori, pas d'enquête judiciaire, rien. Rien qui ressort dans les archives locales. Et cette impression que les rescapés de Maillet, en se disant « mais on nous cache tout, on veut rien nous dire ». Donc là, c'est quelque chose de pas normal. Et là, ça m'a donné vraiment envie de chercher, de voir les logiques. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi Maillet va disparaître de cette mémoire collective? Donc, il y a plein de phénomènes, il y a plein de choses qui vont faire que Maillet va disparaître. C'est pas lié à une personne, hein, c'est des conséquences les unes après les autres qui vont faire que Maillet va disparaître. Ça commence de la part des rescapés, des familles eux-mêmes qui ne vont pas vouloir parler du massacre pendant des années et des années.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
C'est cette date, la date, même date que la libération de Paris, 25 août 1944. Donc quand on veut faire une cérémonie à Maillet, mais on la fait en même temps qu'à Paris. Pendant cette période, on a eu quand même beaucoup de ministres qui ont été tourangeaux. Ils venaient à Maillet quand ils n'étaient pas ministres. Une fois qu'ils étaient ministres, ils allaient aux cérémonies à Paris. Mais si on n'a pas de ministre à Maillet lors des cérémonies, bien le préfet ne vient pas. Parce que généralement, en plus, ce sont les vacances du préfet le 25 août. Tout le monde est en vacances. S'il n'y a pas de préfet, s'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de journaliste. On envoie des pigistes, les petits contractuels, les petits jeunes. Et ces petits jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils recopient l'article qui a été fait avant. On fait un copier-coller. Et plus ça allait, et plus ces articles étaient petits, jusqu'à ce que la disparition totale des articles, ne mentionnant même plus cette cérémonie du 25 août. Les historiens sont parfois aussi comme les journalistes, parfois comme des élèves. On fait des copier-coller. On recopie sur ce qu'ont fait les autres. Et on va recopier les erreurs des autres. Et petit à petit, Maillet va disparaître.
Alors, sur quel bout du fil de cette pelote commences-tu à tirer pour faire venir l'histoire? Comment est-ce que tu procèdes?
Alors, c'est très progressif. Il a fallu d'abord refaire l'histoire du village, retrouver les sources d'archives, autres que locales. Les archives locales, on a vite fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Je m'associe avec d'autres historiens, notamment un historien allemand qui s'appelle Peter Lieb, qui était spécialisé de la Seconde Guerre mondiale, qui connaît, lui, les sources en Allemagne.
Les mouvements d'unité?
Alors, les mouvements d'unité, les logiques, les conceptions différentes. Ce qui était intéressant, c'est que parfois, on n'a qu'une vision française des choses. Mais comme c'est une guerre mondiale, il ne faut pas avoir qu'une vision française. Il faut aussi avoir une vision mondiale et des conceptions mondiales.
Ou voir même ce qui se passe en dehors des limites du département, hein, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'unité SS dans le 37, mais il y en a une plus loin dans le département d'à côté.
Oh, il y en avait même à Tours. Il y en avait à Tours des SS, de la même unité de ce que ceux dont faisait partie Maillet, qui ont fait un autre massacre le 24 août 1944 à Buchères, dans l'Aube, à côté de Troyes, qui faisait partie indirectement de la 17e Panzer d'une division SS. Mais c'est très difficile à l'époque, même juste après-guerre, de connaître les unités, puisque les Allemands ne disaient jamais de quelle unité ils faisaient partie, puisque ce sont des secrets militaires. Donc les Français ont eu beaucoup de mal après la guerre de connaître bien quelle unité était telle en place. Évidemment, l'été 44, au moment de la débâcle, les Allemands n'arrêtent pas de changer de place. Donc c'est très difficile pour les Français de suivre les unités pour dire qu'il y a un Müller, qu'il y a un Schneider, qui est bien dans cet endroit-là, et que cette unité-là est bien là. C'était très difficile. Néanmoins, il y a eu beaucoup de travail après-guerre, de recherche. Vraiment des enquêtes de police qui ont duré très longtemps. Ce qui fait qu'il y a eu plus de 800 condamnations à mort, au moins par contumace, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pu arrêter les personnes, mais qu'on a pu les nommer, en disant que celui-là, un Müller, a bien tué un Dupont. C'était un énorme travail qui a duré plus de 5 ans. Et ce travail, en bonne partie, va tomber à l'eau, puisqu'il va y avoir après bien la guerre froide. Les Américains, les Anglais et l'Union soviétique vont refuser d'extrader des criminels de guerre ennemis allemands en France. Car à ce moment-là, après la guerre, on commence à préparer l'autre guerre, cette guerre froide, où on voulait réconcilier l'Allemagne, les Américains, les Anglais voulaient réarmer l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, et les Soviétiques vont rapidement réarmer l'Allemagne de l'Est, en attendant qu'un éventuel conflit puisse se faire. Et entre-temps, nous, avec nos criminels de guerre qu'on avait condamnés en France, on ne va pas les avoir, puisqu'il va falloir adoucir, et c'est le début de l'Europe. Il va falloir pardonner. Il va falloir avaler cette pilule, qu'on va de l'autre côté du Rhin, on va voir toujours des criminels de guerre qui restent chez eux.
Et comme vous allez le voir dans la suite de cette enquête avec l'historien Sébastien Chevreau, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a qu'une poignée de SS triés sur le volet qui ont été exfiltrés par les USA ou qui se sont planqués en Amérique du Sud. Beaucoup de SS ont en fait coulé des jours plus ou moins paisibles en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est. On en reparle après cette pause musicale que vous pourrez certainement trouver fort déplacée. C'est un titre composé par Lucien Ginsberg qui, enfant, dut porter l'étoile jaune et qui, adulte, se permit certaines plaisanteries sur ce thème. Allez, on va appeler ça un exorcisme.
SS in Uruguay.
Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
SS in Uruguay.
Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe. Il y a des couillonnes qui parlent d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition.
SS in Uruguay.
Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles où que j'aille.
SS in Uruguay.
Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
SS in Uruguay.
J'ai gardé de mes batailles trois gammées et médailles en émail, et toujours ces couillons qui parlent d'extradition, mais pour moi pas question de payer l'addition.
SS in Uruguay.
J'ai ici de la canaille qui m'obéit au doigt et à l'œil.
SS in Uruguay, oui, c'est osé de jouer un Gainsbourg pour faire une pause dans ce troisième épisode de cette série sur le massacre de Maillet du 25 août 1944. Mais c'est une plaisanterie pas complètement sans rapport avec la suite de l'enquête historique et policière menée par l'historien Sébastien Chevreau.
Alors les premiers indices, ben en fait c'est la redécouverte qu'il y a bien eu un procès sur Maillet, avec les archives qui vont avec. Dans un dépôt d'archives qui est assez peu connu, qui est le dépôt d'archives de la justice militaire qui est au Blanc. Là, on se rend compte qu'il y a eu des enquêtes juste après-guerre, en 44, 45, 46, jusqu'en 1950, avec des témoignages recueillis déjà à l'époque. Et en relisant ces témoignages, on voit des descriptions, on voit des éléments que les policiers à l'époque n'ont pas su interpréter, notamment des mentions d'uniformes. Mais c'est aussi plus facile pour l'historien qui vient après, qui connaît les tenants et les aboutissants. Voilà, avec des mentions d'uniformes, des descriptions d'uniformes, des choses qu'on ne peut pas inventer, qu'en 1946, les agriculteurs de Maillet ne peuvent pas inventer, disent avoir vu ce jour-là.
Ils étaient habillés en capote. Ils avaient des capotes et ils étaient nus sous la bande d'SS, là, des gars qui avaient 17-18 ans, des jeunes. Bon, ils tiraient partout, n'importe où, ils étaient fous. Quoi.
Et donc là, on a des témoignages crédibles, nous indiquant des mentions d'uniforme. Avec ça, on peut recouper avec des morceaux, donc des déplacements d'unités, avec ce qu'on appelle les journaux de marche, que toute unité, que ce soit militaire française ou allemande, font, c'est chaque responsable d'unité dit « aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, je vais par ici, je vais par là ». Voilà, c'est un carnet de bord que toutes les unités font. Donc, en retrouvant ce carnet de bord de la 17e Panzer-SS, qu'a fait Peter Lieb en Allemagne, on a pu déterminer qu'il se trouvait, donc cette unité se trouvait à Châtellerault, Ils n'étaient pas encore partis 5 jours après le massacre de Maillet. Voilà, ils partent de Châtellerault entre le 29 et le 30 août 1944. Donc on a 700 hommes là-bas qui se trouvent à Châtellerault. C'était des unités qui n'étaient pas normalement destinées à combattre, puisque c'était qu'une unité de réserve. C'était des malades, des blessés, ou des types qui étaient en forme de formation. On les envoyait à Châtellerault pour qu'ils aillent se former à utiliser de nouvelles armes. Il y a beaucoup de jeunes, voire de très très jeunes. On a des types qui ont 16 ans, qui se trouvent là-bas à Châtellerault. Et puis des plus âgés, et tous les cadres de cette 17e Panzer-SS, c'était des cadres qui venaient déjà du front de l'Est, qui venaient de Russie, qui venaient de Pologne, d'Ukraine, etc. Et on sait que ceux-là, obligatoirement, ont vu d'autres massacres, comme celui de Maillet, de Radour, dans les années 41, 42, 43. Ils ont peut-être même participé. Tout du moins, ils ont déjà vu des choses abominables faites contre les populations. Et on sait, par expérience, que dans les armées, quand un soldat se retrouve à faire des choses innommables, plusieurs fois d'affilée, au bout d'un moment, il ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Il ne sait plus que c'est bien, il ne sait plus que c'est mal. Il ne fait qu'obéir, il ne fait que suivre ses petits copains. Et après, il y a un phénomène de groupe qui se met en place. Eh bien, on va refaire ce qu'on a déjà fait. Et ce qui s'est passé à Maillet, eh bien, c'est des choses que ces Allemands avaient déjà fait probablement dans les pays de l'Est, en Pologne ou en Ukraine.
Toujours avec Sébastien Chevreau, on est en train de reconstituer cette enquête quasi-policière que tu as menée avec d'autres amis historiens, et notamment l'historien allemand spécialiste des mouvements de troupes nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le travail d'enquête se continue, donc vous commencez à avoir quelques certitudes.
On commence à avoir quelques certitudes par ces logiques. Déjà les logiques allemandes de quelle troupe peut faire ci, quelle troupe peut faire ça. Des logiques d'armement. Toutes les troupes allemandes n'ont pas le même type d'armement. Il y a des troupes qui sont de la territoriale, qui n'ont que des petites armes, qui n'ont que des fusils, ou une fusil, une baïonnette. Mais à Maillet, on a des armes spécifiques, on a des plaquettes incendiaires. Ces plaquettes incendiaires, on ne les donne pas à n'importe qui. Voilà, ce sont des munitions qui coûtent cher. Donc on ne les donne qu'à des troupes d'élite, qui savent les utiliser. On fait déplacer des canons. La même chose, on va utiliser des troupes spécialisées. Et Hitler, bon, il n'est pas qu'à moitié fou. Ces troupes les plus spécialisées, les plus jeunes, ils envoient toujours au front. Donc ils les envoient à cette époque-là, l'été 44, soit du côté de la Normandie, soit en Russie. À Tours, bah, il ne reste que des bons pères de famille, globalement. Ce sont des troupes plus âgées, qui n'ont pas spécialement envie de faire de la guerre. Souvent, la plupart des Allemands qui sont à Tours ont déjà fait la Première Guerre mondiale. C'est des types qui ont plus de 40 ans, en règle générale. Ils sont là simplement que pour gérer, ils ne sont pas là pour faire la guerre. C'est l'administration. Mais il reste quand même quelques troupes qui sont là pour faire de la répression. Quelques centaines d'hommes qui se baladent entre Tours et Poitiers et Châtellerault. Donc là, c'est plus facile de déterminer quelles troupes peuvent être à Maillet ou pas. Ça réduit considérablement le champ d'investigation. Ensuite, avec ces mentions d'uniformes, on a des mentions d'uniformes de tenues de camouflage. Il n'y a que des SS qui peuvent avoir des tenues de camouflage. Probablement même des tenues de camouflage venant du front de l'Est. Que les vestes, pas que les pantalons. Des petits indices comme ça, qu'on peut lire dans les témoignages des rescapés de Maillet, dès 46, on le voit très bien. Et c'est pas des choses qu'on invente. À Maillet, on n'en voyait pas tous les jours quand même des tenues de camouflage. Et à l'époque, on n'a pas encore les films, toutes les photographies de sources allemandes. Donc si plusieurs témoins voient ce type d'uniforme, c'est qu'ils y étaient. Ils n'ont pas pu les inventer. Et on va voir des traces aussi. Un symbole SS, l'embuscade qui a eu lieu la veille du massacre de Maillet, deux ceinturons ont été trouvés avec les emblèmes SS. Donc on sait que ceux-là sont dans les parages. Ils sont à 20 bornes. La veille, ils fusillent 7 résistants, un grand qui est à 20 km au sud de Maillet. On a un canon, enfin une batterie anti-aérienne, qui est passée juste à côté d'un grand, à Entrant. C'est pareil, où il y a une vingtaine de types de cette SS qui sont là. Donc on a plein de faisceaux contre ces troupes-là, qui puissent nous dire, ce sont eux. D'autant qu'il y a eu cette embuscade la veille où on a deux SS qui sont blessés, donc il y a cette... Oula, on tire sur des SS, il faut se venger. Et le principal responsable de cette troupe SS, de cette 17e Panzer Division, qui se trouvait à Châtellerault,
est grièvement blessé lui aussi dans une embuscade le 15 août 1944 du côté de Parthenay, donc à moins de 50 km de Maillet. Donc on se retrouve avec une troupe de très jeunes soldats, très mal encadrés, et avec des chefs dont certains d'entre eux vont être également tués ou blessés grièvement dans des embuscades. Cette troupe de SS est forcément à Maillet. Voilà, on a plein de faisceaux pour nous dire que ça ne peut être qu'eux. Après, ce ne sont pas les seuls qui sont à Maillet. Il y a également aussi toutes ces troupes de sentinelles qui sont autour du village. Ces sentinelles ne vont pas tuer. Elles vont laisser faire. Ils vont regarder. Donc ces sentinelles sont issues de deux régiments, le 196e et 104e régiment de sécurité. Ce sont des troupes de la Wehrmacht. Généralement, ce sont des hommes plutôt assez âgés, donc plus de 40 ans. Bon, on leur dit d'aller là-bas, ils sont là pour surveiller. Certains d'entre eux vont tuer. Ils vont tirer de loin, mais a priori, peu d'entre eux vont tuer dans la logique. Ils ne sont qu'autour du village. Ils sont là pour sécuriser la zone. Ils ne sont pas là pour s'occuper du massacre. On va voir ces canons qui vont venir sur le village, qui devaient bombarder le village, dont un va être détruit le matin par la chasse alliée, par pur hasard, et le second qui va lancer 80 obus sur un village de 60 maisons dont la majorité sont déjà en flammes. Il faut être vraiment abruti en plus pour tirer 80 obus sur 60 maisons en flammes. Ils ont simplement obéi aux ordres. On leur a dit de lancer les obus, alors ils ont lancé les obus. Donc que les maisons soient en flammes ou pas, c'est pas leur problème, on leur a dit de détruire. Ceux-là aussi sont responsables, ils sont au courant. Il nous reste encore un autre morceau de soldats allemands qu'on n'a pas pu vraiment déterminer. C'est tous les soldats allemands qui se trouvent dans ces convois ferrés qui passent à Maillet, ces quatre convois ferrés qui passent dans la nuit. Il y a 700 types par convoi, plus le convoi qui s'est arrêté dans l'après-midi dans le village de Maillet. Donc là, on a plus de 4000 soldats allemands qui vont traverser le village de Maillet. Et tout cela, ils sont tous témoins, ils sont tous coupables, tout du moins d'avoir laissé faire. Ce sont tous des témoins. Il y a un élément qu'on n'arrive pas à déterminer, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, c'est la présence ou non à Maillet d'éléments de ce qu'on va appeler la Gestapo en France. On dit ça la Gestapo, enfin c'est la police allemande. Plus théoriquement, ça s'appelle les services des SIPO SD. Voilà. Normalement, ce sont eux qui organisent ce type de massacre. C'est à eux d'organiser et c'est à eux d'aller chercher les hommes, de prendre les bons hommes et de les amener sur le lieu d'opération. Normalement, ces services de la Gestapo de Tours ont déjà évacué la ville de Tours dès le 10 ou 12 août 1944. Il est possible que ce soit ceux qui viennent de Châtellerault et de Poitiers. À Châtellerault, il n'a pas encore évacué Châtellerault. Donc c'est probablement lui qui va organiser et planifier le massacre. Et non pas le petit sous-lieutenant Schutter qu'on va dénommer, qui lui n'est vête que le bras armé de l'exécution. Mais lui, à son niveau, normalement, c'est pas lui qui prend cette décision.
Alors lui, Schutter, c'est pas un SS, c'est un gars de la Wehrmacht. Il est cantonné à Sainte-Maure-de-Touraine, pas très loin de Maillet. Voilà.
Alors, il est connu très peu. À l'époque, en 1944, on sait que simplement qu'il s'appelle Schutter. On ne sait pas trop comment ça s'écrit, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son unité. On sait que simplement qu'il était responsable d'un fameux gîte d'étape à Sainte-Maure-de-Touraine. Ça faisait 10 jours qu'il était sur place. Donc, il ne connaît pas la région, ce type-là. Après la guerre, on va réussir à déterminer précisément qui il est.
En fait, c'est le seul nom que vous avez dans cette enquête, non ?
Enfin, c'est le seul nom qui va apparaître juste après-guerre. Et c'est le seul contre lequel les policiers vont s'écharner. Ils vont chercher à le trouver, ils vont chercher. En se disant, si on l'arrête, lui va pouvoir dénoncer qui va participer réellement. Et on finit seulement par savoir qui il est, à savoir son prénom, savoir ses unités, ses différentes affectations, grâce à l'audition de celle qui était présentée comme sa maîtresse, qui était française, qui était tourangelle, mais elle vivait à Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas de fichier de recherche de témoins. Et il a fallu attendre qu'elle revienne voir sa famille en Touraine pour qu'elle soit auditionnée par la gendarmerie. La gendarmerie donne son PV d'audition à la justice militaire qui faisait des enquêtes. Et de là, on arrive à retrouver qu'il vivait en Allemagne. On fait procéder une audition le 26 juin 1950, de mémoire. Et là, Schutter dément qu'il était en France, qu'il n'était pas en France, c'était pas lui, etc., etc. Et pour preuve, il donne même sa photo de lui en militaire. Et le lendemain, en fait, on s'aperçoit que ce fameux Schutter s'enfuit de chez lui. Donc on l'avait pas arrêté, parce que pour l'instant, les policiers n'avaient pas de preuves, donc ils n'avaient procédé qu'à une audition. Mais le fait qu'il disparaisse de chez lui, le fait qu'on a pu reconstituer tout son parcours militaire grâce à ces cartes, voilà, il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites en Allemagne, mais il reste toutes les cartes d'incorporation de tous les soldats allemands, tous les prénoms, avec les noms, les prénoms et les différentes affectations. Et grâce à cette carte-là, on sait qu'il était à Sainte-Maure, donc au mois d'août 1944. Donc lui, Schlüter, en fait, s'enfuit. Et il s'enfuit probablement en RDA, donc en Allemagne de l'Est. Tout au moins, les services d'espionnage français l'auraient reconnu en Allemagne de l'Est. Et on est en 1951.
C'est bien malin, ça, pour un ancien officier ayant potentiellement commis des choses pas très avouables, de filer chez les Russes. En 1950, c'est crédible. Ça tourne encore, les camps en Russie, à cette époque-là.
Ah non, justement, c'est une grande cache. C'est que justement, c'est que la majorité de tous ceux qui étaient recherchés par la police française, ou américaine ou anglaise, partaient en Allemagne de l'Est.
C'était l'Amérique du Sud, moi.
Ah non, mais ça, c'est que le gratin, c'est que le sommet d'iceberg. Mais en Allemagne de l'Est, ils étaient tranquilles, ils pouvaient se cacher pendant quelque temps. Le mur de Berlin, les frontières n'étaient pas encore faites. Et ce qui fait que ce fameux Schlüter, qui va sûrement aller en Allemagne de l'Est, revient en Allemagne de l'Ouest, puisqu'il meurt à Hambourg en 1965. Il arrive à repartir en Allemagne de l'Est, parce que les frontières sont encore relativement perméables du côté de Berlin. Et les Allemands de l'Est, globalement, ils étaient aussi contents d'avoir des anciens types un peu criminels de guerre, parce que quand ils arrivaient à les débusquer, comme ça, ils avaient un dossier sur eux. Ils pouvaient faire du chantage. Qui va se passer pour certains types d'oradours. On va les retrouver en Allemagne de l'Est. Et après, ils peuvent devenir communistes. Ils peuvent d'un côté avoir été nazis, puis de l'autre côté, devenir communistes. Pas de souci. On arrive à s'arranger. Tout ça, c'est des questions de pression, de choses comme ça.
Finalement, c'est l'extinction, le tarissement de la piste Schlüter.
Alors oui, donc le Schlüter meurt en 65. Il n'y a pas de souci, on annonce à son état civil son extrait de décès. Et officiellement, ça termine l'enquête. Voilà, on ne peut pas faire une enquête judiciaire contre quelqu'un qui est décédé. Mais ça, la France va l'apprendre que très tardivement, puisqu'on va savoir que Schlüter est mort seulement à partir de 1988. C'est très long, c'est assez complexe comme système. Les Allemands non plus ne vont pas enquêter, puisque pendant l'après-guerre, il va y avoir des accords entre les différents alliés contre l'Allemagne de l'Est et contre l'Union soviétique. Et la France va signer un traité avec l'Allemagne de l'Ouest en disant « On n'enquête plus, on ne fait plus de procédures en Allemagne contre vos ressortissants, à condition que vous-même, vous faites vos procédures, vous faites vos enquêtes. » Et les Allemands vont s'interdire d'extrader leurs nationaux, comme les Français. La justice française n'a pas le droit d'extrader des Français vers un pays tiers. Les Allemands, ça va être la même chose. Sauf que les Allemands vont très peu enquêter. Et la France ne va rien dire. On va laisser faire. En 1962, on est déjà presque 20 ans après la guerre, le général de Gaulle, le grand général de Gaulle, donc l'année des accords d'Évian, de la fin de la guerre d'Algérie, cette même année, il libère toute la Gestapo parisienne. Charles Holberg, etc. Ils sont tous des criminels de guerre. Ils ont tous tué quasiment physiquement des gens. Tous ces gens-là, il les libère. Ils étaient tous condamnés à perpétuité. Il les libère tous, dans le cadre de la réconciliation franco-allemande. Voilà, donc il va se passer presque 20 ans, on ne va plus chercher. Il va falloir attendre le début des années 70 avec les Serge Klarsfeld pour enquêter du côté en Allemagne et pour commencer à ouvrir des consciences en disant « Attention, vous avez encore des types chez vous qui ont fait des cochonneries. » Et les Allemands vont commencer petit à petit à réfléchir à ce qui s'est passé, à commencer à enquêter. Mais même, il faudra encore attendre 1988, attendre que l'ONU ouvre ses dossiers et les donne à l'Allemagne en disant « Maintenant, vous vous débrouillez avec tout ça. » Et les Allemands, à partir de 1988, vont avoir la liste des criminels de guerre, leurs criminels de guerre. Ils vont se mettre à réenquêter sur leur propre passé, en demandant à des services de police spécialisés d'enquêter sur leurs anciens criminels de guerre. En 90, ils se rendent compte que Schlüter est mort depuis 65. Aucune demande de la justice française. la justice allemande referme le dossier. Et la justice allemande va rouvrir le dossier seulement en 2005, quand avec une petite délégation, on va se retrouver en Allemagne à présenter Maillet. On ne savait pas que les Allemands cherchaient. Et dans l'assistance, eh bien, il y avait deux policiers allemands qui nous disent « Ah bien, nous, ça nous intéresse, on rouvre une information judiciaire. »
On va voir dans quelques instants, c'est la création d'un documentaire qui va relancer cette histoire.
Je rêve dans le soir sans autre lumière que le feu qui éclaire les murs de ma maison. Demi-obscurité qui crée des mirages, étrange paysage d'où est née ma chanson. C'est l'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre s'égare dans mon logis, reflet bizarre du feu qui vit. Au loin démarre le train qui fuit vers un autre pays. Swing, j'ai pris tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie, c'est la chanson du rythme de la vie. Par la fenêtre ouverte, les notes s'élancent et sous le ciel immense s'envole mon refrain. Il s'en ira là-bas, doux et nostalgique, pour promener sa musique au hasard des chemins. Swing, swing, c'est l'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre s'égare dans mon logis, reflet bizarre du feu qui fuit. Au loin démarre le train qui fuit vers un autre pays. Swing, j'ai pris tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie, c'est la chanson du rythme de la vie.
Swing, rêverie, Irène Trébert, en 1944, avant de reprendre le cours de l'enquête de l'historien Sébastien Chevreau sur le massacre du 25 août 1944 à Maillet. Quel est l'officier allemand qui a donné l'ordre du massacre? On l'a vu, la piste Schlüter est tarie. Mais une autre piste apparaît, un autre nom.
Alors un autre nom qui était connu, qui était le Feldkommandant de Tours. C'était le responsable allemand de la garnison qui était à Tours. Il s'appelait Stenger. Lieutenant-colonel, il venait d'arriver à Tours, début août aussi 44. Il avait pour mission de sécuriser la Loire, de façon à ce que les Américains ne traversent pas la Loire et n'aillent pas vers le sud. Il fallait qu'il impose une certaine paix, tout du moins il ne fallait pas qu'il y ait trop de résistants dans le coin. Et ce qui est intéressant avec ce fameux Stenger, contrairement à Gustav Schlüter, c'est que Schlüter, lui, est resté en France toute sa guerre, il n'a jamais été sur les pays de l'Est. Stenger, lui, il a fait toute sa guerre dans les pays de l'Est. Il a fait la Première Guerre mondiale, soldat, etc. Il est monté en grade, démilitarisé après la Première Guerre mondiale. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il reprend ses galons de militaire et il fait toutes les campagnes de l'Est, dans le Caucase. Il a une mission de sécurité. Donc il a fait, ou il a participé, ou il a vu des massacres déjà dans le fond de l'Est. Il revient en France, il va du côté du Berry, dans l'Indre. A priori, il a fait quelques petites conneries sur la population dans l'Indre en termes de répression. Et quand il arrive à Tours, en août 44, il a pour mission de sécuriser la ville de Tours. Et là, on peut s'imaginer que ce type-là, qui a une formation de militaire, se retrouve face à une situation un peu délicate, où le pouvoir allemand est un peu en forme de déliquescence à Tours, où il y a des actions de résistance, où on tire sur ces types, où il y a même un type, un Américain, qui le 15 août 1944, avec sa Jeep, arrive à traverser le pont Wilson, le pont de pierre, il est sous et il tire sur une sentinelle, il la tue et cette Jeep s'évanouit dans les rues de Tours. Il est caché par la population. On est le 15 août 44 et une Jeep américaine avec un militaire arrive à être caché dans Tours. et les Allemands n'arrivent pas à le retrouver. En termes de sécurité, c'est pas terrible. Et là, on peut imaginer que ce fameux Steinger n'était pas content vis-à-vis de ses hommes, et pas content vis-à-vis de la population française. Et il s'aperçoit que régulièrement, il y a beaucoup d'embuscades la nuit, sur ses trains. Lui, son boulot, c'est de faire convoyer le maximum de troupes vers l'Est, vers l'Allemagne. Et il s'aperçoit que la population française commence à se retourner, commence à faire des embuscades, et commence à tirer les gens dans le dos. Ces soldats allemands ne sont plus protégés. L'uniforme ne protège plus. On peut s'imaginer qu'il est aussi très en colère. Et lui a pu aussi donner cet ordre de représailles de masse. Après la guerre, les gendarmes auditionnent le préfet qui avait rencontré le Feldkommandant, le préfet de l'occupation, et le préfet qui s'appelait Musso, qui était déjà en prison puisqu'il a collaboré, va dire « Bah non, Steinger était très sympathique, en gros, il était très attristé quand on parlait de Maillet. Est-ce que ce n'était pas des larmes de crocodile ? Est-ce que lui, il a peut-être compris, ce fameux Steinger, qu'il avait fait une grosse erreur et qu'il risquait lui aussi le tribunal et une condamnation à mort ? Donc il a peut-être aussi lui menti en disant « Oula, c'est pas moi !» C'est les hommes de dessous qui ont fait le massacre, mais moi je suis innocent. Et les policiers vont laisser ça là-dessus. On va un petit peu enquêter sur Steinger, on va retrouver des types qui s'appelaient plus ou moins Steinger, mais jamais la bonne personne après la guerre. Et après on va laisser faire, alors que Steinger est mort dans les années 70. Et lui, Steinger, savait tout. Obligatoirement, il savait tout, puisqu'il s'était sur sa juridiction. Et il avait convoqué ce fameux Schlüter dans son bureau le jour même du massacre de Maillet pour savoir ce qui s'est passé. Et ce fameux Steinger n'a jamais été auditionné. Là, on est passé à côté d'éléments importants, puisque lui savait tout. On aurait pu savoir quelles troupes précisément ce qui s'était passé, quelles étaient leurs logiques allemandes à l'époque. Car ce qui nous manque un peu sur Maillet, on n'a pas beaucoup de documents allemands écrits en allemand parlant de Maillet. On n'en a que quelques-uns, et très peu qui nous mentionnent pourquoi ils ont fait ça. On ne sait pas. Ils nous ont rien dit. Ils nous ont dit que simplement qu'il y avait des embuscades, qu'il y avait des résistants, et qu'il y en avait marre. Voilà. Donc là, il nous manque ça pour l'instant.
C'est toujours pas qui a donné l'ordre du massacre.
Non, c'est pas qui a donné l'ordre. Alors est-ce que ce fameux Steinger qui est à Tours, lui il a donné un ordre en disant « faut faire quelque chose, faut faire une répression ». Mais la répression à l'époque, s'ils suivent les ordres venant d'Hitler, pour la France c'est « on met le feu sur les maisons d'où on a tiré sur les troupes allemandes et on fusille les hommes qui sont pris les armes à la main ». Normalement ça doit se limiter à ça. Donc déjà ça veut dire « faut déterminer le lieu précis ». Où on a tiré sur les troupes allemandes, et on ne fait que fusiller. Fusiller, c'est-à-dire qu'on ne tue pas les yeux dans les yeux, on n'y va pas à l'arme blanche. Et contre des hommes qu'on a pu identifier. On est très loin de ça, de Maillet. Alors peut-être que ce fameux Steinger ne va dire ça comme ordre. Peut-être. J'ai des doutes, vu son passé. Et vu les troupes qu'il va demander, puisqu'ils interviennent avec des troupes SS qui sont spécialisées dans la représailles. Donc c'est peut-être qu'il a dit... en s'occuper que des hommes. Et peut-être que les troupes qui sont venues de Châtellerault, et qui ont venu tuer leur principal responsable, et qui venaient une bonne partie du front de l'Est, vont appliquer, eux, ce qu'ils avaient appris sur le front de l'Est. Ils avaient le droit de le faire sur le front de l'Est. Alors pourquoi ne pouvaient pas-ils le faire en France, après tout ? Voilà, ça restera une grosse question de savoir qui a fait quoi, qui a donné vraiment l'ordre. On connaît maintenant la chronologie des événements, on sait la chaîne hiérarchique. Mais à quel niveau ça n'a pas fonctionné, ça on a du mal encore à le déterminer. On peut simplement expliquer maintenant le contexte, de façon très fine en se disant, ben voilà, on a beaucoup d'embuscades. On a des troupes qui sont dépaysées, qui ne sont pas chez eux, qui ont peur. Ils ont peur d'être tués tous les jours. Il y a peut-être un besoin à un moment donné de se défouler. Et on dit à des troupes, à 60 types, ben vous allez nous nettoyer le village, vous allez faire une fouille du village. Et puis de là, de fil en aiguille, on passe à... une fusillade. Il y a un phénomène peut-être de groupe qui se met en place. Mais de tout au moins, il y a au départ la volonté de raser le village.
Autrement, prémédité.
Voilà, autrement, on n'aurait pas fait venir deux canons spécifiquement à Maillet pour détruire le village de Maillet.
Et puisqu'il s'agit ici d'une action de représailles des nazis, sur cette histoire de Maillet plane aussi en filigrane la question de la responsabilité des actions armées de la résistance. Et de quelle résistance exactement ? Résistants chevronnés, pieds nickelés, de la dernière heure ? Suite au débarquement du 6 juin, les maquis ont gonflé, les actions armées contre les Allemands démultipliées. Et ici et là, il se passe aussi des choses très bizarres. Des choses qui peuvent arriver quand on met des armes dans les mains de gamins inexpérimentés. Il est aussi temps pour certains, compromis dans l'occupation, de se reconstruire une réputation en se faisant un Bosch, comme on disait à l'époque. En cet été 44, des relents nauséabonds accompagnent le grand vent de libération qui souffle sur le pays. Sébastien Chevreau.
Oui, mais c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre, il y a une volonté de vengeance.
Côté, on se fait un Bosch avant que ce...
Oui, puis généralement, ceux qui se font ça, c'est ceux qui ont peut-être rien fait avant. Ceux qui ont besoin peut-être de se justifier d'une mauvaise attitude pendant la guerre, au dernier moment, se réveillent en disant « Oula, je vais faire mon action, j'y vais ». Il y a le cas aussi des jeunes. On a beaucoup de jeunes qui n'ont eu aucune formation militaire. Il n'y avait plus de service militaire. Ils avaient le choix, en partir de 1944, soit d'aller travailler en Allemagne, soit de rentrer, de se cacher, d'être résistant. Voilà. S'ils n'étaient pas résistants, ils devaient partir en Allemagne. Donc beaucoup de jeunes se retrouvent cachés pour éviter ce fameux STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. Ils se retrouvent dans des maquis, encadrés plus ou moins par des types qui sont des militaires. Ça dépend, c'est assez variable. Mais c'est surtout, oui, à l'été 44, il y a besoin de se venger. Il suffit de regarder les taux de résistants pendant l'été 44. Les maquis du sud du département, tout d'un coup, passent de 10 à 15 personnes au mois de mars, à 100 au mois de juin, ils sont 1000 au mois d'août. Ah bah oui, parce que tout d'un coup, on se réveille. On se réveille, on sent qu'il y a la possibilité de faire quelque chose. Et les alliés aussi se réveillent. Car avant l'été 44, il y a relativement peu de parachutage d'armes. Pour faire de la résistance sans armes, ce n'est pas évident. À partir du moment où les alliés font beaucoup de parachutage d'armes pour former les maquis de résistants, eh ben on peut embaucher davantage de personnes. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une partie un peu de pied-niquelés ou de gens qui, au dernier moment, se réveillent en voulant faire un coup de main contre un Allemand. C'est plus facile d'être à 10 contre un Allemand qu'un Français contre 10 Allemands. Il ne faut pas se leurrer. Et puis, parfois, tuer un Allemand comme ça dans l'eau, ça permettait aussi de récupérer une arme. Donc, il y a un peu de tout. Faut pas essayer de noircir ou quoi de quoi. On a de tout. Mais c'est vrai qu'il y a des branquignoles. Il y a beaucoup de branquignoles parce que c'est la guerre, c'est l'époque qui veut ça. L'époque où on va avoir beaucoup de jeunes qui, tout d'un coup, ne sont pas encadrés. Voilà, c'est pas une organisation militaire. Il y a très peu de maquis vraiment de militaires bien encadrés, bien structurés. Mais on a beaucoup de jeunes qui veulent faire quelque chose, avec leur jeunesse, quelque chose pour leur pays. Et beaucoup d'entre eux, après, vont s'engager dans l'armée pour continuer la guerre en Allemagne. Mais c'est vrai qu'on a une forme d'exaltation. J'ai le propos d'un ancien résistant qui s'appelait le docteur Gandet, qui faisait partie du maquis Cantifrélon, qui est décédé il y a 3-4 ans, qui disait pour cette période, il avait pris les galons de lieutenant dans le maquis Cantifrélon, tout simplement parce qu'il encadrait, il avait 18-19 ans, c'était un tout jeune, il commençait des études de médecin, comme ça qu'il avait ses galons. Et pour lui, les plus belles années de sa vie, c'est ces quelques mois-là de la guerre. Parce que pour lui, c'était la grande liberté. C'était un petit jeune qui pouvait tout faire. Il pouvait le faire, les coups de main contre les Allemands, etc. C'était un grand espace de liberté. Donc il y a aussi ça, la guerre.
Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier entretien avec Sébastien Chevreau. Nous allons laisser cette enquête en suspens jusqu'au prochain et dernier épisode de cette série où vous verrez comment l'enquête rebondit de façon spectaculaire. Salut! Chouva. 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 Samba e amor, a mágoa do rio.
aonde levou. Chuva miúda tava minha dor.